L'histoire humaine est traversée par des conflits entre les peuples, des inimitiés, c'est-à-dire des peuples qui sont ennemis les uns par rapport aux autres. Et ces inimitiés traversent les générations. Il suffit d'ouvrir les informations télévisées pour s'en rappeler. Parfois, un peuple essaye d'éliminer le peuple ennemi. On parle alors parfois de génocide, de nettoyage ou d'épuration ethnique. Des mots, des termes qui font froid dans le dos. Nous, les êtres humains, nous avons la mémoire courte. Et il est facile de penser que ces drames humains sont des événements passés, de peuples peu civilisés, et que le progrès technologique vers lequel nous sommes en marche nous apportera la paix dans le monde. Mais la réalité montre que l'être humain, livré à lui-même, sans Dieu, sans cette lumière qu'est Jésus-Christ, et dont nous avons rappelé tout à l'heure les textes dans Jean chapitre 1, la réalité nous montre que l'être humain, livré à lui-même, ne s'améliore pas. Et des voix s'élèvent encore aujourd'hui pour dénoncer ces drames qui sont toujours d'actualité. Je voudrais vous lire un extrait du discours d'un des représentants de l'église syriaque, c'est-à-dire l'église d'Orient. Extrait d'un discours qui date du 15 août, avant-hier. Écoutez ce qui est dit. Un homme qui s'appelle Ignace Youssef III Younan. Je viens lancer un cri d'alarme. Ce qui vient d'arriver aux chrétiens au nord de l'Irak, plus spécifiquement aux minorités chrétiennes, yézidis, mendayennes et shabak, de la plaine de Ninive et de Sinjar, pourrait bien être appelé un tsunami, c'est l'hécatombe du siècle. Plus de 180 000 personnes craignant d'être massacrées par les djihadistes islamiques, le califat, ont fui leur lieu de naissance pour chercher un refuge précaire au Kurdistan. C'est une épuration pure et simple, sur la base de la religion, et qui pourrait être considérée comme un génocide, puisque des milliers de personnes ont été tuées, abusées et déportées. Elles s'étaient rappelées ce dont leurs frères et sœurs étaient menacés à Mossoul, la deuxième ville de l'Irak, se convertir à l'islam, payer des taxes, ou bien tout laisser et partir. Je viens lancer un cri d'alarme, plaider auprès des peuples occidentaux connus pour leur amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, pour secourir ces communautés minoritaires de l'Irak. J'arrête là l'extrait de ce témoignage. Discours toujours actuel. En son temps déjà, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, la reine Esther a plaidé la cause du peuple juif. Si vous n'étiez pas là lors des précédents épisodes, puisque nous avons là une série de 5 prédications sur le livre d'Esther, je vous rappelle brièvement les points clés des épisodes 1 à 3. Le méchant Aman a fait signer par le roi perse Assuérus, ou Xerxès Ier selon les traductions, un décret pour exterminer le peuple d'Israël. Car Mardoché, un des juifs qui est là, refuse de saluer Aman en public. Et Aman, qui est un des descendants d'Amalek, et qui a perdu la face devant Mardoché à cause de cet affront, veut s'en prendre non seulement à Mardoché le juif, mais encore à toute la nation juive qui est dispersée dans l'Empire perse à cette époque. Esther se présente alors devant le roi au péril de sa vie et invite le roi Assuérus et Aman à un premier banquet, puis à un deuxième banquet pour lui dire ce qu'elle a sur le cœur. Et entre les deux banquets, Dieu, qui n'est pas nommé dans ce récit de l'histoire d'Esther, Dieu qui est là dans les petits événements de l'histoire retourne la situation en faveur de Mardoché et Aman est déshonoré. C'est ce que nous avions lu au chapitre 6. Alors le deuxième banquet arrive et Esther va enfin révéler au roi sa demande. Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à l'ouvrir dans le livre d'Esther, qui se trouve dans la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, un peu avant les psaumes. Avant les psaumes, il y a le livre de Job et puis le livre d'Esther. Et nous allons reprendre la lecture au chapitre 7. Vous pouvez aussi simplement écouter la lecture. On va lire les chapitres 7 et 8 ce matin en plusieurs étapes. Esther, chapitre 7, et nous lirons d'abord les versets 1 à 6. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce deuxième jour, de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, « Qui est-il ? Et où est-il, ce misérable ? Celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Nous arrêtons là un instant et puis nous poursuivrons tout à l'heure la lecture. Le verset 2 nous dit, pour la troisième fois dans ce récit du livre d'Esther, que le roi demande à la reine Esther, « Que veux-tu ? Quel est l'objet de ta demande ? Que désires-tu ? Pourquoi est-ce que tu me fais lambiner ? Pourquoi est-ce que tu me fais attendre ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu m'aies invité à un banquet et puis à un deuxième banquet ? Dis-le-moi. » Et Esther demande la vie sauve. La vie sauve pour elle-même et pour son peuple. Et par là, elle dévoile son origine juive qu'elle avait gardée cachée jusque-là. Voilà sa première remarque, sa demande. Sauve-moi et sauve mon peuple. Tu es le roi, tu en as le pouvoir. Dans un deuxième temps, elle met en lumière des motivations et un complot qui était là, sous-jacent, fomenté en secret. Et comme elle a suscité l'inquiétude du roi en lui disant « Sauve-moi et sauve mon peuple », et le roi lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors Esther révèle, à la demande du roi, les intentions cachées du méchant Aman, celui qu'elle appelle « notre ennemi » au verset 6. C'est-à-dire ici, me semble-t-il, à la fois l'ennemi du peuple juif, notre ennemi à nous les juifs, mais notre ennemi aussi à nous le roi et la reine. Notez que Esther dit à la fin du verset 4, « L'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Aman a comploté contre les juifs, mais il a aussi trahi le roi, il a aussi comploté contre le roi. et la reine dénoncent cette trahison. Et là, Aman ne fait plus le fier, comme il l'avait fait devant sa femme et ses amis en étalant sa gloire et ses richesses à la fin du chapitre 5. Il est premier ministre, Aman, de tout l'empire perse. Mais ses projets machiavéliques ont été démasqués. Et maintenant, il tremble de peur. Son autorité de premier ministre ne pèse plus rien. Ses manigances ne trompent plus personne. Sa femme, Aman, lui avait prédit la déchéance à la fin du chapitre 6. Et la voilà qui arrive à grands pas. Poursuivons la lecture. Chapitre 7, verset 7. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en entrant dans la salle du banquet, le roi trouva Aman affalé contre le siège occupé par la reine Esther. Et il dit, « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. » Elle est dressée dans la maison de Aman et elle fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna, « Pendez-y donc Aman !» Ainsi, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Le roi, comprenant qu'Aman s'est servi de lui pour accomplir ses sinistres projets, quitte la salle du banquet furieux. Et Aman tente un dernier coup de poker. Il vient se jeter aux pieds de la reine Esther pour la supplier. D'ailleurs, on avait Esther qui vient vers le roi pour le supplier de la sauver, de sauver son peuple. Et maintenant, c'est Aman qui vient se jeter aux pieds d'Esther pour la supplier de le sauver, de sauver sa tête. Et pour faire cette demande, cette supplication, il vient se jeter aux pieds d'Esther, devant son trône. Et lorsque le roi, après avoir pris l'air quelques instants dans le jardin, parce qu'il est en colère, revient dans la salle du banquet, il trouve Aman affalé sur le trône où se trouve la reine Esther. Dans une situation, dans une position équivoque. À la colère du roi s'ajoute la jalousie. On voit ici que quand les mauvaises intentions de quelqu'un sont dévoilées, on a tendance à l'accabler de tous les maux. Quand quelqu'un nous cache quelque chose et que la vérité est mise en lumière, la confiance est brisée et on se demande « mais qu'est-ce qu'il nous cache d'autre ?» Et le roi, voyant Aman affalé contre la reine, voit une intention de viol, une tentative de viol. Et alors, voilà que le complot se retourne définitivement contre Aman. Il est saisi et il est pendu là où il voulait pendre Mardoché, sur une potence de 25 mètres de haut. Vous imaginez ça? Je me suis dit, mais quelle importance, la hauteur de la potence. Et je me suis dit, 25 mètres de haut, tout le monde aurait pu voir le juif Mardoché pendu dans la ville de Suse. 25 mètres de haut. C'est la hauteur d'un immeuble. Eh bien voilà, on y pend Aman. Et tout le monde à Suse peut voir le méchant Aman pendu en châtiment de ses actes mauvais. Alors de ce chapitre 7, j'aimerais retenir quelques éléments pour nous, pour notre réflexion, mais aussi pour notre vie chrétienne aujourd'hui. La question qui nous occupe dans ce livre d'Esther et dans cette série de prédications, c'est « Où est Dieu ?» Que fait Dieu, puisqu'il n'est pas nommé dans ce récit une seule fois? Où est-il? Que fait-il? Puisque ce livre est dans la Bible, et que nous croyons que cette Bible est la parole de Dieu, où est Dieu? Que nous dit-il dans cette histoire? Eh bien, premier élément ici, nous voyons que Dieu ne laisse pas le mal impuni. Dieu exerce la justice. Tôt ou tard, ceux qui vivent en s'opposant à Dieu en payent le prix. Le deuxième élément que j'aimerais relever, c'est que pendant un temps, le mal qu'a commis Aman pouvait nous donner l'impression qu'il n'y a pas de justice. Et que si Dieu existait, eh bien, les choses ne se passeraient pas aussi mal. Et nous qui lisons ce texte, nous voyons que Aman fomente ce complot. Et nous nous disons, mais où es-tu Dieu? Que fais-tu? Pourquoi n'arrêtes-tu pas ce plan machiavélique? Et il est vrai que pendant un temps, Dieu laisse faire. Pourquoi? Le triste exemple d'Aman nous montre, me semble-t-il ici, que Dieu existe et que Dieu est juste. Remarquez qu'Aman subit le châtiment qu'il avait lui-même préparé pour d'autres. Il subit le châtiment qu'il avait lui-même préparé pour les autres. Sa fin tragique est à la hauteur, si je puis dire, de ses ambitions personnelles. Mais à l'inverse de ce qu'il avait prémédité. Troisièmement, le triste exemple d'Aman nous montre aussi que la patience de Dieu n'est pas infinie. La Bible nous dit à de nombreuses reprises que Dieu est lent à la colère. Elle ne dit pas que Dieu ne se met pas en colère et que Dieu n'est qu'amour. Dieu est amour. Et Dieu est juste. Dieu est lent à la colère, mais lorsque sa colère tombe, eh bien le méchant et sa méchanceté ne résistent pas. Dieu est patient, car il veut que les hommes se détournent du mal pour se tourner vers lui, pour se tourner vers Jésus-Christ qui est la lumière du monde, comme nous l'avons lu et chanté tout à l'heure. Il y a un sauveur. Mais si quelqu'un refuse le salut de Dieu en Jésus-Christ, et persiste à vivre et à se complaire dans le mal, il s'expose à la condamnation à mort. Et un jour, la colère et le jugement de Dieu tomberont sur lui. Ce vendredi, lors de notre réunion de prière, nous avons lu un passage du psaume 37. Je vous en lis un extrait. C'est un psaume de David. « Ne t'irrite pas contre les méchants. » N'envie pas ceux qui font le mal. Et il y avait de quoi envier ce Aman, riche, puissant et à qui tout semblait réussir. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et fais le bien. Aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça, c'était la position d'Esther. Elle a fait de l'Éternel ses délices, et Dieu lui a donné ce qu'elle désirait, être sauvée et sauver son peuple. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Aman avait jeté le sort pour savoir quel jour il allait exterminer les Juifs. David nous dit, « Remets ton sort à Dieu. » Ça ne sert à rien de jeter les dés pour savoir si tu vas vivre 2 jours ou 10 ans ou 30 ans. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui. Et c'est lui qui agira. Ta vie est entre ses mains. Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. C'est Dieu qui exerce la justice. Et c'est pour ça que David et l'exemple d'Esther nous invitent à placer notre confiance en Dieu. Esther a obtenu ce qu'elle désirait, la vie sauve pour son peuple. C'est ce que nous allons voir dans la suite du récit. Je reprends la lecture au chapitre 8 du livre d'Esther. Lisons les 6 premiers versets. Le jour même, le roi Assuérus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther. Et Mardochée eut à se présenter devant le roi, car elle avait révélé qui il était pour elle. Le roi retira son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, désigna Mardochée comme responsable de la propriété d'Aman. Puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman, la Gagite, et à ses projets contre les Juifs. Le roi lui tendit le sceptre en or. Elle se releva alors. Et c'est debout devant lui qu'elle lui dit « Si tu le juges bon, ô roi, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable, et si je te suis agréable, il faudrait qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il les avait rédigées dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple ?» à la disparition de ma famille. Aman est mort. Ses biens sont donnés à la reine Esther. Ce dont Aman se vantait auprès de ses amis, voilà que cela devient la propriété d'Esther, la juive. La vraie identité de Mardochée est aussi révélée. Lui aussi est juif et il est le tuteur d'Esther. C'est ce que nous avait dit l'auteur dans les premiers chapitres, dans le premier chapitre. Eh bien, ce Mardochée qui, pendant des années, a été à la porte du roi, voilà qu'il prend maintenant la place d'Aman. C'est lui qui devient le bras droit du roi, celui qui signe les décrets pour le roi. C'est ça l'anneau. C'est le cachet du roi, le sceau du roi, ce qui permet de cacheter les lettres, de signer les décrets de la loi. Avec cet anneau, Mardochée a l'autorité royale. C'est cette autorité que le roi lui confie. Et on voit comment après son ascension, Aman a décliné rapidement. Tandis que Mardochée, qui avait l'air comme ça d'être un personnage insignifiant dans le récit, un pauvre juif arrivé là, déporté, le voilà qui prend ce rôle de bras droit du roi. Et lui connaît cette ascension, alors qu'Aman a déchu de sa place. Aman est mort donc, mais son complot est toujours d'actualité. Et c'est pourquoi l'auteur nous dit au verset 3 qu'Esther poursuit son plaidoyer. Un petit peu comme le plaidoyer de cet homme représentant de l'Église d'Orient, que je vous citais en introduction, où il disait qu'il plaidait la cause des chrétiens en Orient. Eh bien, Esther plaide ici la cause de son peuple. Aman est mort, mais le décret royal pour exterminer les Juifs est toujours en vigueur. Alors qu'Aman, remarquez cela dans le texte, a trouvé la mort en se jetant aux pieds d'Esther pour la supplier de l'épargner, Esther, elle, trouve la faveur du roi. Le roi lui tend son sceptre pour la deuxième fois, comme au chapitre 4 quand elle était venue se présenter devant le roi sans autorisation et donc elle risquait la mort elle-même. Le roi tend à Esther son sceptre, ce qui signifie qu'elle a ça sa faveur. Et on voit ici, sans que ce soit dit, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui rend le roi favorable afin que le peuple d'Israël soit sauvé. Par quel moyen Dieu va-t-il agir? C'est ce que nous dit la dernière partie du texte que je vous invite à lire maintenant. Esther, chapitre 8, versets 7 à 17. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: « J'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther, et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez le sceau royal sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et portant le sceau royal ne peut être révoqué. » On convoqua alors les secrétaires du roi le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire le mois de Sivan, et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres de Mardochée et adressé aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces qui couvraient un territoire allant de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, y compris aux Juifs dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit ce message au nom du roi Assuérus et l'on y apposa le sceau du roi. On envoya des lettres par l'intermédiaire des coursiers à cheval qui montaient des attelages royaux, des purs sangs. Le roi autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris les petits-enfants et les femmes, et à procéder au pillage de leurs biens. Cette autorisation concernait toutes les provinces du roi Assuérus, mais était valable un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. C'est le jour qu'Aman avait choisi pour exterminer les Juifs. Verset 13. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et à chaque communiqué et être communiquée à tous les peuples afin que les Juifs soient prêts pour ce jour-là, pour la vengeance contre leurs ennemis. Montés sur les attelages royaux, les coursiers partirent sans aucun retard sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi, porteur d'un vêtement royal bleu et blanc, de fin lin et de pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suse. Les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur. Dans chaque province et dans chaque village, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie, à l'allégresse, avec des banquets et des fêtes. De plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs tant ils avaient peur d'eux. À la maison, vous pourrez relire les chapitres 3 et 4 et comparer avec ce chapitre 8. Et vous verrez que l'auteur fait une sorte de copier-coller, mais à l'inverse de ce qu'il dit dans le chapitre 3 et 4. Je vous donne quelques éléments. Au chapitre 3, on voit Aman qui fait proclamer ce décret pour exterminer les Juifs le 13e jour du 12e mois de l'année. Et ici, au chapitre 8, on voit que Mardochée fait proclamer un décret royal pour que les Juifs se défendent ce jour-là. On trouve dans les deux passages le même processus. On convoque les responsables du peuple pour les informer. On envoie les coursiers, c'était les emails de l'époque, qui partent annoncer dans toutes les langues et dans toutes les provinces de l'Empire que les Juifs ont le droit de se défendre le 13e jour du 12e mois de l'année. Dans les deux passages, on nous dit que le décret a force de loi, et cela est répété deux fois. Alors qu'au chapitre 4, les Juifs étaient dans le deuil et dans les lamentations à cause du décret d'Aman. Au chapitre 8, à partir du verset 15, nous voyons des cris de joie et d'allégresse de la part des Juifs qui sont dans la capitale. Et ils organisent des banquets et des fêtes, là où au chapitre 4, ils avaient jeûné et prié pour être sauvés. Il y en a même qui se font prosélytes. C'est un gros mot pour dire qu'ils se convertissent au judaïsme, ils adhèrent, ils adoptent les lois juives comme une protection pour ne pas subir la vengeance des Juifs. On trouvera aussi des prosélytes au temps de Jésus, des gens qui adoptent les coutumes et les rites du judaïsme. On voit là encore, entre ces deux parties du livre d'Esther, chapitre 3 et 4, chapitre 8, comment l'auteur nous montre le renversement de la situation qui s'était jouée au chapitre 6. Le deuxième décret, celui de Mardochée, renverse la situation du décret d'Aman. J'aimerais, avant de conclure, dire quelques mots au sujet de ce que l'auteur appelle la vengeance des Juifs. C'est une expression qui peut nous paraître dure, et il y a dans ce texte quelques versets qui sont difficiles à entendre et à comprendre. Comment comprendre que Dieu permette que son peuple massacre à son tour ceux qui voulaient les massacrer? Notons premièrement qu'un décret promulgué par le roi n'est pas révocable. C'est ce que dit le texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand le roi promulgue une loi, on ne peut pas l'annuler, même par une autre loi. Quelle est la solution alors? La solution, c'est de compenser un décret par un autre qui vient limiter les effets du premier décret. Vous voyez? Le décret que Mardochée écrit ne dit pas « Il ne faut pas attaquer les Juifs le 13e jour du 12e mois. » Puisque la loi a été promulguée, elle entre en vigueur et elle ne peut pas être annulée. Donc le deuxième décret vient dire « Les Juifs ont le droit de se défendre. » Et même, ils ont le droit d'attaquer ceux qui voulaient les attaquer. Par rapport au premier décret, le deuxième décret autorise les Juifs à faire à leurs ennemis ce que le premier décret disait. Et là, on trouve un principe qui est déjà ailleurs dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Ça vous dit quelque chose? C'est encore dans nos dictons populaires. Je ne sais pas si on sait encore ce que ça veut dire, mais œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire qu'on renvoie la balle, comme au tennis, à l'identique. Si je reçois un coup et que je suis blessé à l'œil, je rends le coup et je blesse l'œil de l'autre. C'est donnant-donnant. Ça peut nous paraître étonnant que ce principe soit là dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un principe qui avait pour effet de limiter la colère et la vengeance. On voit que ce principe est rarement respecté aujourd'hui. Si je reçois une gifle, ou si on m'insulte, par exemple, si on m'insulte, je vais peut-être avoir envie de taper. Ça, c'est pas œil pour œil. Je remarque aussi que Aman a préparé une potence pour Mardochée, et c'est lui, Aman, qui a été pendu sur la potence qu'il avait préparée. Et donc, tous ces éléments me laissent penser qu'il y a dans ce deuxième décret promulgué par Mardochée au nom du roi, une forme de justice. Même si ces passages de l'Écriture restent difficiles à comprendre. Pourquoi Dieu permet-il, par exemple, que les Juifs se vengent sur les enfants de leurs ennemis? Ça, c'est quand même dur à avaler. dans le dernier épisode, le dimanche prochain, l'épisode 5, nous verrons comment le peuple de Dieu se comportera le jour J, le jour où leurs adversaires qui ont comploté vont les attaquer. Je laisse donc un petit peu cette question en suspens pour la semaine prochaine, mais j'aimerais donner quelques éléments pratiques déjà ce matin. Il me semble que le chapitre 8 que nous venons de lire nous conforte dans l'idée qu'on avait vue au chapitre 7 que Dieu est juste. Dieu est juste et il ne laisse pas massacrer son peuple. Dieu aime son peuple et Dieu veut le sauver. Cette justice et cet amour de Dieu nous rappellent que pour nous aussi, Dieu a donné un moyen pour échapper au décret de mort qui était posé sur nous. Comme Esther en son temps, Jésus-Christ, notre Sauveur, a plaidé notre cause jusqu'à la mort à la croix. Esther, l'avocate, j'ai envie de l'appeler comme ça, Esther, l'avocate qui est venue plaider devant le roi la cause de son peuple. Esther, l'avocate, annonce le plaidoyer du Christ que lui va porter une fois pour toutes pour sauver son peuple de ses péchés. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nous dit ceci. Écoutez. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, parce que nous ne sommes pas des juifs, donc nous ne sommes pas circoncis dans notre corps. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Qu'est-ce que c'est l'acte rédigé contre nous ? Eh bien, c'est la liste des fautes que nous avons commises envers Dieu. Toutes les fois que nous transgressons la parole de Dieu, nous offensons Dieu. Et Dieu qui est juste écrit contre nous une reconnaissance de dette. Ça vous dit quelque chose ? Une reconnaissance de dette. C'est dans le vocabulaire commercial. Vous écrivez, ou quelqu'un écrit, « Un tel me doit tant d'argent. » Et on l'écrit sur un papier et on signe cette reconnaissance de dette. Eh bien, pour chacun de nous, Dieu a une reconnaissance de dette. Un tel me doit tant d'argent. C'est une image, mais c'est une réalité. Eh bien, c'est cette liste de péchés, cette dette contractée par nous, contre Dieu, qui a été clouée à la croix avec Jésus-Christ. Et cela, le chrétien le saisit par la foi. Et c'est pour cela qu'il est disciple du Christ. Cela veut dire que si nous plaçons notre confiance dans cet acte que Jésus-Christ a accompli pour nous, nous sommes sauvés. Dieu prend la reconnaissance de dette, la liste de péchés, la liste d'offenses contre lui, et il la déchire. Et il dit, acquitté, plus coupable. Qu'est-ce que nous avons à faire ? Simon l'a déjà évoqué tout à l'heure, en lisant Jean chapitre 1. Je voudrais reformuler d'une autre manière ce qu'il a dit. La première chose à faire, c'est de reconnaître que nous avons une dette envers Dieu. Et que lorsque nous péchons, lorsque nous mentons, lorsque nous volons, lorsque nous essayons de nous sortir nous-mêmes des situations de péché dans lesquelles nous sommes, nous offensons Dieu. Parce que, en faisant cela, nous nous faisons notre propre Dieu. C'est comme si nous disions à Dieu, moi je sais, toi tu ne sais pas, moi je vais me débrouiller, moi je n'ai pas besoin de toi. Reconnaître notre dette, c'est simplement dire oui, oui j'ai péché contre toi. C'est ça qu'on appelle la confession. C'est reconnaître comme mal et comme bien ce que Dieu appelle mal et bien. La deuxième chose à faire, une fois que nous avons reconnu cela, c'est de nous repentir, comme nous y invite si souvent la Bible. C'est-à-dire dire à Dieu, pardonne-moi. C'est-à-dire encore, efface ma dette, efface. Je ne veux pas être condamné à mort. Je veux vivre. Et pour cela, il suffit, troisièmement, d'accepter que la mort de Jésus paye la dette que nous avions contre Dieu. Comme l'a dit très bien Simon tout à l'heure, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui le fait en Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre moyen pour être sauvé, pour être réconcilié avec Dieu, si ce n'est de saisir par la foi cette vérité, que Jésus, à la croix, est mort pour moi, pour nous, pour nos péchés. Il a porté à notre place le châtiment qui devait tomber sur nous. Il a pris sur lui, il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait à mort. Et la quatrième chose à faire, c'est de nous détourner du péché. Nous détourner du péché pour suivre le Christ ressuscité. Et si nous ne l'avons pas fait encore, passer par les eaux du baptême pour professer publiquement cette foi que nous voulons mettre en pratique, cette foi en Jésus-Christ. Si nous croyons, si nous voulons croire aujourd'hui que Jésus nous sauve et que Jésus peut venir régner dans notre vie aujourd'hui pour nous détourner du mal et nous aider à faire le bien en le suivant pas à pas, jour après jour, alors nous pouvons simplement prier Dieu qu'il fasse cette œuvre en nous. Beaucoup parmi nous ont déjà fait ce pas de foi. Peut-être est-ce pour nous qui avons fait ce pas de foi déjà l'occasion ce matin de nous tourner comme à nouveau vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nous reconsacrer à lui, de lui dire « Je me suis éloigné de toi, je veux revenir à toi, fais-moi revenir à toi. » Ou bien « Je suis oublieux, je suis encore pécheur, tu le sais, aide-moi à marcher avec toi. » Et le Seigneur Jésus, qui est fidèle, qui est juste et qui nous aime, nous prend par la main pour nous faire aller de l'avant, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans sa prière. Et si nous n'avons pas encore fait ce pas de foi, eh bien, voilà l'occasion ce matin. Cette histoire d'Esther qui nous annonce à sa manière l'œuvre et l'histoire de Jésus-Christ est un appel pour nous. Alors ce que je vous invite à faire dans les instants qui sont là devant nous, c'est à fermer les yeux et à prier dans vos cœurs, si vous êtes chrétien, que Dieu vous reconsacre à lui, vous fortifie, renouvelle en vous son esprit pour le servir dans l'amour, dans la joie, avec courage, avec la force qui vient de lui. Et si vous n'êtes pas chrétien, c'est-à-dire si vous n'avez pas saisi par la foi que Jésus est votre sauveur, eh bien voilà l'occasion de l'appeler au secours. Et pendant que nous fermons les yeux, je vous propose, si vous entendez l'appel de Dieu ce matin, si vous l'entendez personnellement vous appeler pour le suivre, je vous invite, pendant que nous inclinons nos têtes et que nous fermons les yeux, à lever la main. Je vais demander à Patrick de venir devant avec moi. Et si certains veulent lever la main pour s'engager avec le Seigneur Jésus aujourd'hui et marcher pour cette vie et pour l'éternité avec lui. Alors, après le culte, Patrick et moi, nous pourrons prier avec vous et partager quelques instants. Si vous voulez discuter, si vous voulez prier, nous pourrons prier avec vous. Donc, inclinons nos têtes, fermons nos yeux et prions dans notre cœur, là où nous en sommes avec Dieu aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous consacrer ou à nous reconsacrer à lui, à placer ou à replacer toute notre confiance en lui et non en nos propres forces pour nous améliorer. Prions. Si quelqu'un veut lever la main, nous pourrons ensuite tout à l'heure discuter et prier ensemble. Prions quelques instants.